Temps, contre-temps. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Dans la série Mythologie sur le mythe de Prométhée, Canal Académie vous propose de retrouver la musicologue Danielle Piston, correspondante de l'Académie des Beaux-Arts. Elle évoque tout d'abord le Prométhée de Franz Liszt, puis d'autres compositeurs, dont Schubert et Fromental à Lévy, inspirés eux aussi par ce mythe. Elle est interrogée par une jeune élève de l'École d'art Coronin à Paris.
Bonjour Danielle Piston. Une première question me vient. Y a-t-il une relation entre les sentiments révolutionnaires de Liszt et sa composition d'un Prométhée qui est une œuvre tardive ?
Oui, tardif, tout est relatif. Le Prométhée de Liszt qu'on connaît bien, c'est le poème symphonique. Mais il faut bien penser qu'avant le poème symphonique, il y a eu une musique de scène. Et que cette musique de scène, elle était pour le Prométhée délivré de Herder. C'est-à-dire que parmi donc les traits fondateurs du mythe, comme vous le savez, il y a ce moment où Prométhée, ce titan qui a volé le feu pour le donner aux hommes, est accroché sur un rocher et un aigle lui dévore le foie. Mais Prométhée va être délivré. Donc le poème symphonique qu'on connaît, mais qui vient de la musique de scène de la pièce de Herder, c'est un geste typiquement listien. Tout d'abord le malheur et après la gloire. Le triomphe. Donc, idée révolutionnaire dans le Prométhée, moi je dirais, chez Liszt, finalement, pas spécialement.
Prométhée est-elle l'unique œuvre à base mythologique de Liszt ?
Dans la même catégorie des poèmes symphoniques, vous avez à peu près contemporain Orphée. Et Orphée, c'est le mythe musical par excellence. Mais pourquoi est-ce que Liszt écrit Orphée ? Ben, il l'écrit d'abord pour Gluck. C'était un hommage, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on revient toujours au texte littéraire, Herder, au livret de l'opéra de Gluck, et puis de cette ouverture écrite pour cette occasion, il en fera un poème symphonique. Comme vous savez, poèmes symphoniques, ce sont des ouvertures. C'était pas l'idée de Liszt d'écrire des ouvrages qui s'appelleraient poèmes symphoniques, ce sont des ouvertures descriptives, exactement comme on a pu le faire avant lui. Simplement, le genre, avec lui, a pris une toute autre allure. Donc Orphée, c'est le mythe, je dirais, par excellence dans l'opéra. Pourquoi ? Parce que c'est l'apport de la musique, c'est la rédemption par la musique. Donc, finalement, Liszt, par rapport à Wagner, n'est pas autant ancré dans les légendes et les mythes. Il faudra dire que ce sont les circonstances qui ont conduit Liszt vers le mythe.
Et est-ce que vous pensez qu'on peut établir une relation entre la révolution de 1848 et le poème symphonique Prométhée dont la composition est plus tardive ?
Non, pour la raison que je vous ai dite, c'est-à-dire que c'est une musique de scène. Et d'ailleurs, après le poème symphonique, il en fera une grande cantate. Donc on va quand même déduire de cela, vous savez que Liszt reprenait souvent ses œuvres, on va quand même déduire de cela que ce Prométhée est une figure très importante du romantisme, chez Liszt comme chez d'autres.
Et donc il y a peut-être d'autres musiciens qui sont tournés vers la mythologie et d'autres...
C'est une question difficile. C'est une question difficile parce qu'effectivement, ça dépend beaucoup du milieu. Je vais vous donner un exemple qui est très peu connu, mais qui touche l'Institut de France. Pourquoi Fromental à Lévy, qui a été le grand compositeur de l'opéra historique, de la Juive, a écrit un Prométhée en 1849 ? Eh bien, parce qu'il avait un frère qui se prénommait Léon, lequel d'ailleurs était bibliothécaire adjoint à l'Institut, et c'était un savant qui traduisait du grec. Donc, il avait traduit ce Prométhée enchaîné que l'on dit être d'Eschyle, et Fromental à Lévy, en 1849, donc a fait une musique de scène pour ce Prométhée d'Eschyle. Et l'œuvre a été donnée au conservatoire, et c'est la toute première fois, à ma connaissance, où au XIXe siècle, il emploie des quarts de ton parce que les Grecs avaient des intervalles extrêmement petits, plus petits que notre demi-temps. Vous voyez, donc c'est quel concours de circonstances conduit à Lévy à écrire une musique de scène pour Prométhée. Mais vous voyez qu'on rejoint un peu l'attitude de Liszt. Chez d'autres compositeurs, par exemple Wagner, par exemple certains compositeurs d'Europe du Nord comme Sibelius, il y a en revanche un attrait beaucoup plus grand pour les légendes, les symboles. Vous voyez, parce que dans le fond, qu'est-ce que c'est que le mythe ? C'est sûr que c'est une histoire, mais comme la musique ne raconte pas, vous ne pouvez pas dire que la musique raconte. Elle raconte à vous, mais elle raconte une autre histoire à votre voisin. Donc, un compositeur, je rejoins aussi d'autres idées qu'on pourrait développer sur les relations entre mythe et musique, un compositeur, qu'est-ce qu'il va retenir du mythe et pourquoi va-t-il être intéressé par le mythe ? Alors, peut-être pour donner une espèce de dignité à son œuvre. Parce que c'est vrai qu'en choisissant le thème de Prométhée, en choisissant le thème d'Orphée, en choisissant Narcisse, que sais-je, il s'intègre à cette civilisation dont il est le fruit. Donc ça donne toujours un supplément de dignité à une œuvre, c'est vrai. Mais les compositeurs les plus attirés par les mythes sont en général ceux qui sont les plus attirés par les symboles. Peut-être pas au sens où on a parlé du symbole dans le symbolisme, mais vraiment dans toute cette idée de dépassement justement du réel. Vous voyez, donc on rejoint aussi la légende, pas seulement le mythe, mais la légende. Il y a un compositeur très contemporain qui évolue tout à fait dans ces univers mythiques. D'une façon générale, d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a eu beaucoup d'opéras contemporains qui sont revenus des personnages de l'Antiquité ou à des mythes. C'est extrêmement fréquent depuis les années 1990. Par exemple, vous avez chez Hugues Dufour un Dédale, par exemple. Mais pour revenir à ce compositeur contemporain qui, je crois, est étrangement attiré dans les mythes et baigne dans les mythes et fait de tout un mythe, c'est un compositeur italien qui s'appelle Salvatore Cherino. Et lui, bon, que ce soit la légende, par exemple, il y a un Lohengrin chez Cherino, je veux dire, tout a toujours un aspect mythique, dit-on. Pourquoi mythique, finalement ? Il faut bien voir aussi que ce terme a différentes acceptions dans notre langue. L'une qui n'est pas très glorieuse, quand on dit que c'est un mythomane. Mais pourquoi on en est arrivé là, d'ailleurs ? Parce que le mythe, c'est vrai qu'il met en œuvre l'imaginaire, dans la mesure où c'est pas la réalité, il met en œuvre l'imaginaire et il met en œuvre souvent, comme je le disais, le symbole. Qu'est-ce que c'est que le symbole ? Dans le fond, c'est ce qui est caché. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut aller chercher derrière une réalité. Donc, je crois, si vous voulez, que chez les artistes, c'est finalement une attitude. Et Lévi-Strauss le disait aussi, il y a des musiciens du mythe, il y a des musiciens du réel. Et pourquoi un musicien recourt-il donc au mythe ? Ça peut être pour se donner une nouvelle dignité, ça peut être pour renouer avec sa culture classique. Mais ça peut être aussi parce que fondamentalement, il cherche toujours cet aspect caché des choses, ces aspects les plus lointains des choses. Et je crois que la remarque serait valable pour toute forme d'art.
Ils abordent donc le mythe de façon très différente.
Absolument.
Et pour clore cette émission, Daniel Piston, juste quelques mots sur le Prométhéeus de Schubert, d'après Goethe.
Oui, parce qu'il est antérieur à l'œuvre de Liszt. Schubert, un Lied qui s'appelle Prométhéeus, pourquoi pas ? On entre dans l'époque romantique, mais ce qui est important, c'est le texte de ce Lied. Un texte qui sera repris d'ailleurs par Hugo Wolf, un texte qui a souvent fasciné. Et c'est remarquable de penser, alors que le romantisme allemand n'a pas eu la même évolution que le nôtre, que dans les années 1770, Goethe a fait parler ainsi son titan Prométhée. D'un voile de brume couvre ton ciel, ô Zeus. Et tel l'enfant qui décapite les chardons, essaie ta force sur les chaînes et les cimes. Vous voyez, là, c'est la puissance du titan. Et puis petit à petit, il va parler de celui qui là-haut sommeille, c'est-à-dire les dieux. Il ferait mieux de faire autre chose. Et heureusement que Prométhée va s'occuper de ce qui se passe sur la terre, Et il conclut en disant « Ici-bas, je façonne les êtres humains à mon image, une race qui m'est semblable pour souffrir, pour pleurer, pour connaître le plaisir et la joie, et pour n'avoir que faire de toi comme je n'en ai souci moi-même. » Et Schubert, dans un geste qui est assez commun d'ailleurs aux compositeurs de Lieder ou de Mélodie, répétera deux fois ce vers terrible. Autrement dit, non seulement j'ai volé le feu aux dieux, mais je me suis substitué aux dieux. Cela étant, je pense quand même qu'il ne faut pas oublier dans le mythe de Prométhée ce côté altruiste, dont ne rend peut-être pas toujours compte la violence que je viens de citer. Ce côté altruiste, si vous ne pensez pas que Prométhée a dérobé le feu pour le donner aux hommes, c'est un voleur. Il perd tout son intérêt. C'est pour ça que je disais, et je dis toujours, il y a des caractéristiques spécifiques d'un mythe. Hein. Donc Prométhée, c'est pas seulement la révolution, hein. C'est pas seulement le rejet de forces supérieures, c'est pas seulement le fait de nier une autorité à ceux qu'il a au sommeil, comme dit Goethe. Mais il y a ce côté altruiste, bâtisseur, constructeur, et je crois que c'est pour ça que Prométhée reste une très belle image.
Sur le mythe de Prométhée, d'autres émissions vous sont proposées sur Canal Académie dans notre série Mythologie, ainsi qu'une grande émission avec Jean-Pierre Mahé de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, spécialiste du Caucase, le lieu de naissance du mythe prométhéen.